terme de développement durable est aujourd'hui utilisé au quotidien. Quand on dit développement durable, on dit respect de l'environnement et aussi progrès économique et protection sociale et peut-être bien d'autres choses que nous allons peut-être dérouler tout à l'heure. Ce concept qui a d'abord semblé être un phénomène de mode est aujourd'hui considéré par l'État, par les institutions régionales, départementales et communales comme une nécessité absolue. Le samedi 20 octobre, FM Plus 91 FM à Montpellier organise au Gazette Café une table ronde sur la transition énergétique et l'un des participants sera Michel Pierre, directeur mission développement durable, études et prospectives au conseil départemental de l'Hérault. Et j'ai le plaisir d'accueillir Michel Pierre aujourd'hui dans nos studios. Bonjour Michel Pierre.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'à nous en vélo.
Oui, mais il fait beau, c'est un plaisir.
Voilà, s'il avait plu, vous auriez laissé le vélo.
C'est un plaisir aussi.
D'accord.
Mais un plaisir plus humide.
C'est ça. Alors, Michel Pierre, au département, vous travaillez sur ce que vous appelez sur votre site internet un plan climat territorial. Alors, et parmi les objectifs, le premier, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, comment ça se passe concrètement, Michel Pierre, que d'avoir ce grand objectif-là ?
Alors, ça se passe au travers d'une loi, celle de la transition énergétique. Ça se passe aussi au travers du Grenelle environnement, qui était des accords passés en 2010. On est aujourd'hui sur l'engagement des collectivités territoriales, donc c'est-à-dire les départements, les régions, les communautés de communes, les mairies, sur la réduction des gaz à effet de serre. Et une petite nouveauté de la loi sur la transition énergétique et de la loi NOTRe, c'est qu'on a affecter aujourd'hui les plans climat, air, énergie territoriaux qu'aux EPCI, donc aux communautés de communes, aux métropoles, de plus de 15 000 habitants.
Ah
donc,
oui.
Donc, c'est-à-dire que...
Les plus petites ne sont pas concernées.
Alors, voilà. Donc,
moins de 20 000 habitants n'est pas,
voilà,
sont
censés ne pas être concernés. Le département de l'Hérault, qui n'a plus l'obligation, continue à mener ces actions-là au travers d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre, un BGES, un bilan carbone, plus connu pour voir qu'est-ce qu'on émet en matière de gaz à effet de serre et quelles sont les actions qu'on va mettre en œuvre pour les réduire. Mais on continue aussi à travailler sur l'adaptation au changement climatique parce que le PCET, maintenant le PCAET, a un double volet. Il a un volet atténuation des gaz à effet de serre, mise en œuvre des énergies renouvelables, mais aussi comment préparer demain. Et demain se joue dès aujourd'hui sur les modifications du climat, c'est-à-dire l'augmentation des températures, les épisodes un peu plus violents, la montée du niveau de la mer, la sécheresse, etc. Donc c'est ce type d'action qu'il faut essayer de préparer.
Oui. Alors, Alors, plusieurs questions viennent dans vos propos, bien sûr. Le département de l'Hérault est peut-être aussi très très vite concerné par ces dispositions, parce qu'il est méditerranéen, parce qu'il y a la mer. Est-ce que ça compte aussi ça pour vous, cet emplacement par rapport au nord de la France ou peut-être d'autres départements moins...
Tout le monde est concerné.
Moins fragile.
Non, tout le monde est concerné aujourd'hui parce que le changement climatique est à l'œuvre. Pour citer des petits chiffres comme ça locaux, mais la dérive thermique de Montpellier depuis 40 ans, c'est plus 1,5 degré. Et grosso modo, on a un observatoire de la météo et du climat au sein de la collectivité. On suit l'évolution. La dérive en fonction des stations météo, ça va de 0,3 degré à 0,5 degré tous les 10 ans. Donc, c'est-à-dire qu'en 10 ans, en 30 ans, on peut prendre entre 1 et 1,5 degré en fonction des zones dans l'état actuel des émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on ne fait rien, et pour l'instant, on fait peu au niveau mondial, si on ne fait rien, ce phénomène va s'accroître. Donc, effectivement, aujourd'hui, on mesure déjà le changement climatique et on mesure également la montée du niveau de la mer. Donc, le marégraphe de Marseille a enregistré plus 15 cm. On a aujourd'hui des satellites style Topex Poséidon qui permettent de mesurer assez finement ces choses-là. On voit très bien pour ceux qui font de la montagne le recul des glaciers alpins, etc. Donc voilà, donc on a des phénomènes qui doivent nous alerter sur l'urgence à agir et les collectivités essayent d'agir aussi pour répondre à ces enjeux.
Donc agir comment précisément ici, là, à Montpellier, dans l'Hérault ?
Alors, petite explication technique, si on veut agir, il y a deux choses. Il y a les gaz à effet de serre et il y a l'énergie. Donc, on vient de réaliser le bilan carbone du département. Par exemple, l'énergie que nous consommons, ce n'est que 7% de nos émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez, donc c'est-à-dire que notre marge de manœuvre, elle est sans doute ailleurs.
C'est ça.
Elle est par exemple
très très peu.
Vous citiez l'exemple, je suis venu en vélo ce matin, elle est dans le déplacement domicile-travail ou travail-travail. Mais les agents dans une grosse collectivité, ça fait vite 25 millions de kilomètres par an. Donc chaque kilomètre d'un agent qui va faire de choisir les transports en collectif, qui va choisir le fait de venir en vélo ou à pied, sachant que 50% en France, 58% des gens qui prennent leur voiture feront un trajet de moins de 1 km.
Ouais.
Donc il y a 58% des gens qui peuvent agir dès aujourd'hui.
C'est ça. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'une personne plus une personne plus une personne, ça va représenter beaucoup.
Voilà, ça va représenter beaucoup, d'autant plus que nous sommes dans un pays riche. Donc, c'est effectivement, nous consommons beaucoup plus, mais les gaz à effet de serre sont aussi contenus dans la table qui est devant nous. Si c'est une table en bois et qu'on la garde assez longtemps, ben on peut dire qu'on a stocké du carbone pendant longtemps. Si c'est une table en verre, ben c'est une autre manière de la fabriquer. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, elle va être, par contre, amortie en plus longtemps parce qu'elle contient des gaz à effet de serre. Donc dans les matériels de consommation tous les jours, dans notre alimentation, un plat carné viande rouge est beaucoup plus émissif qu'un plat à base de viande de poulet bio et locale. Donc on a des marges de manœuvre qui sont assez larges. Et ce qui veut dire qu'on a une capacité d'arbitrage assez importante individuellement. Et quand on se pose la question à l'échelle d'une collectivité, on va essayer de regarder dans le mode de mettre en œuvre des routes, la manière de construire des bâtiments, la manière de les gérer, la manière d'organiser les transports, la manière de mettre en œuvre des visioconférences, par exemple, comment on peut réduire ces gaz à effet de serre.
Mais ce que vous êtes en train de dire, ça ressemble quand même à une révolution culturelle totale.
C'est une révolution nécessaire. C'est ce qui se joue aujourd'hui, c'est pas le fait de dire il faut économiser l'énergie parce que la chasse au gaspillage va nous faire des économies, c'est veut-on ou non sauver l'humanité dans sa globalité. Aujourd'hui, on sait que l'humanité va être confrontée à des enjeux très sérieux qui, si on ne fait rien, seront encore plus sérieux.
Oui.
Donc on est dans cette question-là et ça engage la responsabilité collective et individuelle. Et c'est souvent, on a des comportements un peu
contradictoire.
On décompense le fait d'avoir fait des efforts en se payant par exemple un week-end avec un trajet low cost en disant ben oui j'ai tellement fait d'efforts là que j'ai fait du vélo pendant 3 mois, peux bien me payer un petit aller-retour en avion. Ben non, mais non, il faut y aller aussi en vélo.
Ouais, ça ressemble un petit peu aux frustrations des régimes. On se dit, mince, alors j'ai
frustration ou plaisir, parce que je pense qu'aujourd'hui, si on parle, là j'étais dans une anecdote tourisme, mais aujourd'hui on consomme des destinations, moi j'aimerais qu'on repense voyage. Et quand on repense voyage, si on se penche sur notre région, il y a la capacité de faire des voyages extraordinaires avec des moyens doux à l'échelle du département, à l'échelle de la région. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas la peine de partir de l'autre côté du monde. Donc on a aussi des sources de plaisir, de bénéfices importants, et tout le travail qui est mis en œuvre par les collectivités, c'est aussi pour préserver ce capital régional, ce capital beauté des paysages, qui aujourd'hui peut être affecté comme est affectée la biodiversité.
Et un capital humain aussi, parce que c'est l'humanité aussi qui est en jeu là.
Oui, avant de vous dire, je disais une petite prospective pas réjouissante, mais on pense que pour l'Europe du Nord en 2100, c'est 150 000 morts par an liées au changement climatique.
Alors voilà, dans des territoires autres certainement que l'Europe, mais...
Non, pour l'Europe.
Pour l'Europe.
Pour l'Europe.
Pour l'Europe,
pour l'Europe avec particulièrement très affectée l'Europe du Sud. Donc Espagne, Italie, sud de la France, donc Grèce. Voilà, donc ça c'est les chiffres si on ne fait rien, quoi. On a connu ça en France, la canicule de 2003, c'est 15 000 morts supplémentaires. Cette année, la canicule, le gouvernement a dit, bon, mais on s'en sort bien, c'est 1 500 morts supplémentaires, voilà. Et la Russie, il y a quelques années, qui a eu la canicule, c'était 38 000 morts dus à la canicule. Donc ça veut dire ça aussi, le changement climatique.
Michel Pierre, donc là, on a évoqué justement comment atténuer notre dépense d'énergie carbonique, vous diriez comme ça.
Je dirais atténuer nos émissions de gaz à effet de serre et renouveler le mix énergétique. L'idée, c'est d'atténuer tout ce qui est énergie fossile et énergie nucléaire pour mettre en œuvre des énergies renouvelables, c'est-à-dire des énergies qui sont mise en œuvre grâce au soleil, grâce au vent, grâce à l'eau, grâce à la mer, grâce à la géothermie. Donc on a tout un panel d'énergies renouvelables sous la main qui peuvent permettre de n'affecter l'énergie fossile dont on pourrait avoir besoin qu'aux besoins essentiel pour ça, c'est-à-dire par exemple chauffer un plat, c'est plus quoi, c'est plus compréhensible de le chauffer au gaz que de ou au bois que de le chauffer à l'électricité, par exemple. C'est ce qu'on appelle l'usage spécifique de l'énergie.
Donc on s'adapte. Il faut que maintenant, aujourd'hui, nous nous adaptions tous. Est-ce que le citoyen héraultais en a conscience de ça ?
Alors, il en a conscience, oui et non. Ça peut être... Il y a des fois des phénomènes de maladaptation. C'est-à-dire on s'attend à ce qu'il fasse plus chaud, donc si on a les moyens, on agrandit la piscine. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. On place une clim, je ne suis pas sûr que ce soit non plus une
là
bonne
aussi,
idée.
Là aussi, c'est consommateur.
Consommateur d'énergie, plus les gaz frigorigènes sont éminemment gaz à effet de serre, 50 000 fois plus que le CO2, donc il reste beaucoup plus dans l'atmosphère. Donc c'est une catastrophe qu'on prévoit pour nos arrière-arrière-petits-enfants, vu qu'ils peuvent rester 20 000 ans dans l'atmosphère. Donc c'est voilà. Donc par contre, on peut penser maison bioclimatique, on peut penser aussi lutte contre l'îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire comment penser les circulations d'air, remettre l'arbre dans la ville, réouvrir les ruisseaux pour faire un petit peu de vapeur d'eau, tout en permettant à l'eau de s'écouler pour éviter bien sûr les populations de moustiques et les désagréments. Mais techniquement, on sait faire. Et puis, pour moi, l'adaptation, c'est une sacrée opportunité pour le territoire. Parce que notre département, par exemple, est un... a beaucoup de chance. Nous avons une biodiversité extraordinaire, nous avons des paysages extraordinaires, nous avons pas mal de chercheurs, pas mal de citoyens qui sont motivés. Et si cette contrainte du changement climatique qui nous dit grosso modo la mer monte, il va faire plus chaud, il va sans doute y avoir un peu moins d'eau quand on aimerait en avoir l'été, et puis un peu plus d'eau quand on aimerait moins en avoir l'automne parce qu'on a déjà les épisodes cévenoles, mais on peut essayer de développer une ingénierie de construction qui limite les gaz à effet de serre, c'est-à-dire du bois, de la terre, etc. Donc on va partir sur des matériaux qui vont stocker du carbone et qui en même temps montrent des nouveaux modèles d'aménagement qui répondent à ces enjeux du changement climatique. Le changement climatique, par exemple, si on arrête tout aujourd'hui et qu'on arrive à limiter les gaz à effet de serre, qu'on, par une baguette magique, on arrête le fait qu'on émette, la mer va quand même monter pendant plusieurs centaines d'années d'une manière mécanique. Et elle va monter de 5 à 7 mètres de hauteur. Donc on sait aujourd'hui que la mer, dans 300 ans, 400 ans, sera pas du tout au même endroit qu'elle est aujourd'hui.
Donc, Est-ce que ça veut dire qu'il y a des villes proches, comme Frontignan, qui vont être peut-être submergées à un moment donné?
C'est-à-dire que... Mais, nos anciens, alors je ne vais pas faire du passéisme, mais nos anciens avaient il y a Sérignan et Sérignan plage, il y a Agde, Cap d'Agde,
Marseillan plage.
Et donc il y avait quand même des positionnements qui étaient un petit peu en retrait par rapport aux aléas de la mer. Donc aujourd'hui elles montent. Donc effectivement, dans X années, on sera amené sans doute à occuper différemment le territoire. L'important, c'est de se donner toutes les chances. Pour que nous, déjà, parce que je pense qu'en 2050, beaucoup d'entre nous seront encore là, et en 2050, il y aura déjà des gros impacts du changement climatique, pour que nous puissions vivre dans un territoire qui est affecté par le changement climatique et garder une qualité de vie, et même, pourquoi pas, l'accroître parce qu'on a développé le mieux vivre ensemble, etc. Et en même temps, se poser la question d'éviter les activités les plus polluantes près de la mer. Parce que si on doit reculer demain, il ne faut pas laisser des friches industrielles, des friches polluées ou des centrales nucléaires au bord de la mer. Malheureusement, on en a mis quelques-unes dans le monde. La dernière bien connue, c'est Fukushima. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des zones comme ça qu'il faut anticiper, déplacer par anticipation avant de se confronter à un problème. Parce que derrière, c'est toutes les ressources de demain. Parce qu'un pêcheur de Palavas, bon, il a aujourd'hui un certain type de poisson qui est en train de changer avec le changement climatique. Mais lui, ce qu'il veut, c'est garder son activité de pêche. Donc, si demain il arrête la sardine pour faire de la dorade coryphène et qu'on continue à manger du poisson parce qu'il n'est pas pollué, ça lui va bien. À ses petits-enfants, ça lui va. Mais par contre, si on a pollué le milieu, plus personne ne voudra du poisson.
C'est ça.
Voilà. Donc, c'est ces questions-là. Et en fait, c'est de sacrées opportunités pour réfléchir à comment demain aménager le territoire intelligemment. Et on a toutes les ressources. C'est-à-dire que nous avons toutes les ressources aujourd'hui pour bien faire.
Est-ce que il faudrait pas être un peu plus dans l'obligation de faire plutôt que vous parlez d'adaptation, vous nous dites il faudrait que les gens prennent plus leur vélo et moins leur voiture. Est-ce qu'on ne devrait pas passer à un rythme de pression plus fort en disant écoutez maintenant c'est Il y a des choses interdites.
C'est au législateur de le dire. C'est pas au fonctionnaire que je suis. Le fonctionnaire met en avant la loi et puis exhorte avec ses convictions
mais
les
vous,
citoyens.
Personnellement, vous ne croyez pas qu'on devrait
je
peut-être
pense,
activer
si
un
je,
peu plus.
Si je cite Aurélien Barraud qui en ce moment fait le buzz sur Internet en disant que grosso modo, oui, effectivement, si on ne prend pas des mesures, si on ne donne pas un prix au carbone, mais si on ne donne pas. Aujourd'hui, on est quand même dans le paradoxe où il y a des camions de bois qui descendent des Cévennes, qui remplissent des bateaux à 7, qui vont faire tailler ce bois en Chine, qui revient après chez nous sous forme d'autres... Voilà. Donc, s'il y avait un prix au carbone, par exemple, c'est toute une industrie, par exemple, du bois, qui pourrait se mettre en œuvre durablement sur nos territoires, parce que ça ne vaudrait pas le coup d'envoyer un bateau de l'autre côté de la planète et qu'il revienne, parce que... Voilà, donc si on donnait un vrai prix... Donc si on internalisait, de manière un peu techno, si on internalisait les coûts externes liés au changement climatique, donc donner un prix au carbone, par exemple, ça permettrait de développer une économie locale, non délocalisable, parce que de toute façon, on aurait besoin de produire des choses sur place, parce que ça vaudrait le coup. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a des industries qui se relocalisent en Europe, notamment en France, parce que la technologie a fait des progrès, etc., qu'on arrive à abaisser certains coûts salariaux, mais si en plus le prix du carbone aidait à ça, donc des spécialistes parlent de plus de 100 euros la tonne, donc on n'est même pas à 30 euros, on ne paye pas du tout
le vrai
prix climat, prix climat de ce que l'on fait, on aurait un levier économique, donc et ça serait assez simple à mettre dans la loi. Donc si l'Europe l'imposait et mettait des taxes liées à ces choses-là, donc on pourrait effectivement penser différemment le développement.
Cette émission arrive à sa fin, Michel Pierre. Est-ce qu'il y a des aspects que je n'ai pas évoqués avec vous, mais qui vous tiennent à cœur?
Oui, c'est que moi, ce qui me tient à cœur, c'est qu'en fait, on peut tous faire quelque chose et on a tous raison des fois de se dire c'est pas la peine parce qu'il faudrait que les autres fassent. Mais moi, quelque part, c'est... faisons-le quand même.
Voilà.
Faisons-le quand même, parce qu'effectivement, on peut toujours dire t'es quelqu'un est tombé dans la rue, de toute façon, il y a les pompiers, ils vont venir le ramasser. Non, c'est quand même bien de le ramasser, de relever la personne, de l'aider à se relever. Donc, je pense que on a beau avoir effectivement une société organisée, une puissance publique, des lois, etc. Je pense qu'aussi la loi, c'est le citoyen qui l'a fait. Si demain Montpellier est embouteillé parce qu'il y a des vélos partout, la loi dira qu'il ne faut plus qu'il y ait de voitures dans Montpellier parce que les vélos ne peuvent pas rouler. Voilà.
Ouais,
Donc je pense qu'il y a un moment donné où il faut être acteur et il n'y a pas de geste héroïque à mettre en œuvre. Je pense qu'il y a juste des gestes du quotidien, des gestes de bon sens, des gestes qui sans doute résonneront dans le porte-monnaie de chacun parce que c'est aussi des gestes d'économie. Et après tout, ces économies peuvent demain permettre de financer des éoliennes citoyennes, des productions photovoltaïques citoyennes. Et là, paf, d'un coup, la société le change. On fait ensemble, on se fédère. Et on se met à regarder son voisin différemment, alors qu'on est tous en train de s'enfermer.
Oui.
Et on se met à bâtir un projet commun.
Bon. Ah, merci, Michel Pierre.
Merci à vous.
Michel Pierre, je le rappelle, vous êtes directeur, directeur Mission Développement Durable, Études et Prospectives au Conseil départemental de l'Hérault. Et vous serez avec nous le samedi 20 octobre au Gazette Café pour, évoquer cela avec d'autres personnes qui travaillent aussi dans le même sens pour la transition énergétique. Au revoir.
Au revoir.